Je voudrais, dans les aujourd'hui et les deux prochains dimanches, vous parler de certaines vertus chrétiennes. Certaines vertus chrétiennes. Et je voudrais parler et commencer par une vertu noble, précieuse aujourd'hui, qui doit marquer notre caractère et surtout notre comportement. Une vertu qui doit être une vertu digne de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Ça doit être quelque part le label de qualité par lequel on vous reconnaît. C'est comme une affiche invisible sur votre cœur, mais qui est lisible par les jambes à cause de votre vie. Vous portez en vous ce label, ce trait de caractère. Voyez-vous, ce trait de caractère dont je vais vous parler, c'est quelque chose qu'on attend de vous et en même temps que vous attendez des autres aussi. Vous allez voir, c'est important parce que vous l'attendez des autres. Vous allez me dire, mais de quoi va-t-il parler? Il nous maintient en suspens ici. Et cette qualité, cette vertu est indispensable dans notre société pour fonctionner correctement. C'est même le ciment de base pour les fondements de nos couples. Ah, là je précise déjà. Cette vertu fait partie des attributs de Dieu, mais Dieu la cherche auprès des hommes. Et c'est elle qui va compter tout à la fin. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai de plus grandes. Rentre dans la joie de ton maître. C'est la parole que Jésus va donner à celui qui sera fidèle, mais jusqu'au bout. Pas fidèle juste aujourd'hui, mais fidèle jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle. La fidélité. Vous allez me dire, mais bon, on connaissait déjà, on savait déjà, mais vous allez voir, je vais pointer certains détails ce matin dans lesquels nous allons certainement nous retrouver. La fidélité, c'est être capable de remplir ses engagements. C'est ce qu'on attend de vous et c'est ce que vous attendez des autres. C'est tenir ses promesses. C'est garder, pour le chrétien, garder sa foi en toutes circonstances. Ah, c'est pas simple. C'est quelqu'un, une personne fidèle, c'est quelqu'un de fiable. Vous aimez ça chez les autres, là, et d'être fiable. C'est indispensable dans les relations, dans les sociétés, dans les entreprises, et surtout dans la famille. Quelqu'un qui est fidèle, il est fidèle à son original, comme une photocopie est fidèle à l'original. Nous devons tirer exemple sur la fidélité de Dieu, car c'est de cela que je veux premièrement parler ce matin. La fidélité de Dieu, ce n'est pas une vertu, c'est un attribut. Ça fait partie de la nature même du Seigneur. Seigneur que nous ne voyons pas, mais qui est une personne extraordinaire que nous pouvons connaître par la foi, que nous pouvons connaître en nous approchant de lui sans le voir, mais on peut le voir avec notre cœur et parler avec les yeux de la foi, tu peux le toucher, tu peux être touché par lui, tu peux l'aimer, tu reçois son amour en retour. Et cette fidélité fait partie de l'être, de son caractère, de son attribut. Il est fidèle. Non seulement il a des actes de fidélité, mais il est fidèle de nature. Dieu est fidèle parce que, et c'est là que nous trouvons finalement la base de tout ce qui se dit, tout ce qui se vit dans l'Écriture sainte, dans la Bible, eh bien Dieu est fidèle dans son alliance. L'alliance que Dieu fait depuis l'origine. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible, celle qui a été faite avec Noé, avec Israël, avec Moïse, avec David, et au travers de Jésus, nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens rentrés dans l'alliance, et parce qu'il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu fidèle à tous ses engagements. Car Dieu, quand il s'engage, son oui, c'est oui, et son non, c'est pas négociable. Seigneur, tu pourrais pas changer d'avis juste pour moi, ça m'arrangerait. Dieu est fidèle parce qu'il ne peut pas tordre sa parole, il ne peut pas plier sa parole, il ne peut pas aller contre ses engagements. Mais quand Dieu est engagé, il reste engagé parce que c'est un Dieu de promesses. La promesse, c'est la garantie de sa fidélité. Et dans les alliances bibliques, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'attend pas que l'homme s'engage pour lui s'engager. Dieu dit partout, je m'engage envers vous. Je m'engage, il disait à Noé, je m'engage de ne plus détruire la terre. Alors David, il veut dire, je m'engage d'être avec toi. Je m'engage envers Israël. Au travers de Jésus, je m'engage à vous aimer, à vous pardonner, à vous libérer, à vous donner le salut. Je m'engage. Dieu fait le pas de l'engagement, mais même s'il n'attend rien en retour, il attend quand même un retour de notre part. Il attend une réponse de la part de chacun. Tout être humain doit pouvoir répondre quelque chose à l'engagement de Dieu à notre égard. Si vous aimez quelqu'un, si un homme aime une femme, si une femme aime un homme, si un des partenaires dit « mais je t'aime, je t'aime, je t'aime » et l'autre ne répond rien, vous ne pouvez pas baser une alliance là-dessus. C'est peut-être une histoire décevante, c'est peut-être un film mélancolique, un mauvais film, mais tant qu'il n'y a pas de réponse, il ne peut pas y avoir, on ne peut rien construire. Il faut une réponse à l'amour de Dieu, il faut une réponse à la promesse de Dieu, il faut une réponse à la fidélité de Dieu. Et ce matin, est-ce que tu veux répondre quelque chose? Parce que Dieu va nous prouver sa fidélité. Il va nous prouver sa fidélité. Et j'aime la parole de Dieu dans le sens qu'elle nous donne tant et tant de textes anciens, puissants. La parole de Dieu est puissante aujourd'hui. Elle a une autorité, elle a une base, elle a un impact aujourd'hui. Elle est vieille, mais elle est puissante, n'est-ce pas? Le soleil, il est vieux, n'est-ce pas? Mais il est puissant quand même. Hein, il brille fort. Vous ne pouvez même pas le regarder dans les yeux, tellement qu'il est puissant, mais il est vieux de, je sais pas, des milliards d'années. Ce livre est vieux, mais il est puissant. La parole de Dieu a été vérifiée tout au long des âges. La parole de Dieu est puissante et efficace, et elle nous dit, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, c'est un Dieu fidèle qui garde son alliance. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Il garde son alliance, il est fidèle, il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Alléluia. Dieu s'engage. Je suis fidèle à mes alliances. Si tu t'engages avec moi, dit Dieu, tu as un partenaire parfait. Est-ce que vous ne voudrez pas avoir un partenaire parfait? Dieu est un partenaire parfait, il ne va jamais te laisser tomber. Il va toujours prendre soin de toi. Il ne te laissera jamais tomber, même si tu ne sens pas sa présence. Tu dis, mais Dieu, où il est? Où il est? Où? Je ne sens plus, je ne sais pas où il est, j'ai perdu pied. Dieu est fidèle. Base ta vie sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Dieu est fidèle. Et cette fidélité de Dieu nous permet d'avoir une espérance, une assise, une certitude. Ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a des certitudes. Il a des certitudes. Lorsque vous convertissez, c'est la première chose qui se passe, c'est qu'au fond de votre cœur résonne des certitudes. Vous ne pouvez pas tout expliquer, vous ne comprenez pas tout, mais il y a en vous des bases de certitudes. Je sais que je ne sais pas m'expliquer, mais je sais que c'est vrai. N'est-ce pas vrai? Je sais que c'est vrai. Je sais que Dieu est fidèle. Il est au-dessus de mes questions, au-dessus de ce qui ne marche pas dans ma vie. Il est fidèle, je le sais. La fidélité de Dieu, c'est intéressant de noter qu'elle est toujours associée, parce que quand les prophètes ont parlé de la fidélité de Dieu, que ce soit Moïse ou d'autres prophètes, ou les psalmistes, ils sont tellement épris par le caractère magnifique du Seigneur qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à la fidélité. Par exemple, il est dit, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc il rajoute le caractère de Dieu, et il est tellement pris dedans qu'il en rajoute dans une tirade, il en fait carrément cinq d'un coup. Deutéronome 7, 9, sa fidélité et sa miséricorde durera jamais. Deutéronome 32, nous l'avons déjà lu au verset 4, je répète, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Apocalypse 3, verset 14, voici ce que dit le témoin fidèle et véritable. Donc il y a cette combinaison, cette fidélité, mais qui est combinée à d'autres attributs du Seigneur qui fait que nous sommes là pour louer le Seigneur et pour l'adorer, pour dire « Oh, combien ta fidélité est grande !» C'est Jérémie qui va nous dire ça, et nous avons d'ailleurs un cantique là-dessus. Les images bibliques sont également là pour nous parler et nous aider à nous émerveiller, à imaginer la fidélité de Dieu. Dans le psaume 89, verset 2, il est dit que « Tu as établi ta fidélité dans les cieux ». C'est comme si les cieux racontent quelque chose de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est inscrite dans la création, dans les cieux. Ta fidélité, dira le psalmiste au chapitre 36, va jusqu'aux nues. Et encore une fois, elle est de nature céleste. Psaume 89, ta fidélité m'environne. Psaume 91, ta fidélité est un bouclier. Et il y a tant et tant d'autres images de sa fidélité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il est fidèle. Mes amis, si vous ne savez plus comment remercier Dieu, si vous êtes à court d'idées, si vous avez de la peine à l'adorer, louez-le pour sa fidélité. Louez-le toujours pour sa fidélité. Vous avez en tout cas un sujet qui est constant dans notre louange. La fidélité de Dieu contraste avec l'infidélité humaine. Et l'Écriture est là pour dire que Dieu restera toujours fidèle, même si nous sommes dans l'échec, même si nous n'arrivons pas à répondre à ses exigences, Dieu restera toujours fidèle. Et lorsque Dieu garantit sa fidélité avec Israël, il savait déjà qu'Israël allait être incrédule, endurci, désobéissant, qu'ils allaient rater leur vocation. Pendant tant et tant de périodes et de cycles dans leur histoire. Mais la parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament justement que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. C'est-à-dire qu'il reste fidèle malgré toute l'histoire d'Israël, si compliquée et si difficile, remplie d'aléas et de circonstances mauvaises et surtout de prises de position mauvaises contre Dieu, désobéissantes et finalement ça a terminé dans des échecs cyclique et régulier, mais Dieu dit, je suis quand même fidèle. Et le bon plan que j'ai commencé, il va s'achever dans une totale et pleine réussite. Alléluia. Ce que Dieu commence, même avec l'infidélité et les complications humaines, Dieu est capable d'écrire droit avec des lignes courbes. Alléluia. Il est capable de réussir quelque chose là où il n'y a plus que des débris. Plus que de la casse, il est capable de rectifier ça, de recoller cela et de redonner une pleine réussite à la vie de chacun d'entre nous. Il est dit dans le Nouveau Testament que Dieu est capable de te garder corps, âme et esprit, de te sanctifier tout entier. Vous allez me dire, mais comment je vais réussir ça? Dieu dit, ne te fais pas de soucis, je te rends capable. C'est moi qui le ferai. C'est marqué dans 2 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23, il est dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. On pourrait prendre tellement de textes où Dieu garantit sa fidélité. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu es éprouvé, Dieu dit, « Le Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. » Alléluia. Même si nous sommes éprouvés à l'extrême, Dieu dit, je ne t'éprouverai pas au-dessus de tes forces. Je vais encore te donner des ressources que tu ne connais pas aujourd'hui, mais qui seront là au jour de l'épreuve. Il y aura des ressources qui vont faire que tu ne seras pas éprouvé au-delà de tes forces. Dieu est fidèle. Il est fidèle malgré nos infidélités. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il reste fidèle. Maintenant, je voudrais voir avec vous ces répercussions sur notre vie. Parce que Dieu soit fidèle et que ça nous émerveille, ça nous remplit notre cœur de louange, c'est bien. Il faut alimenter sa louange par des textes comme nous venons de voir ce matin. Mais Dieu dit, maintenant, écoute-moi bien, deviens fidèle comme je suis fidèle envers toi. Toi aussi, sois fidèle, deviens fidèle. Deviens un homme et une femme de fidélité. Je voudrais t'enseigner à la fidélité. Proverbe 20 nous dit, beaucoup proclament leur bonté. Beaucoup, entre guillemets, crânent un peu. Ah, je suis capable de ceci, je suis cela, je suis quelqu'un de bien. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Point d'interrogation. Les proverbes disent, est-ce qu'on va trouver un homme fidèle? Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus de sérieux dans les engagements. C'est un peu négatif de parler comme ça. Mais déjà, l'Ancien Testament parlait comme ça. Un homme fidèle, qui le trouvera? Il posait les mêmes questions que vous vous posez. Mais le Seigneur nous dit, je peux te rendre fidèle. Je peux travailler dans ton cœur et réussir ma vie, réussir mon travail dans ta vie pour que tu deviennes un homme et une femme fidèle. Et que tu sois connu toi aussi pour ta fidélité. Premier aspect. Dieu attend de nous que nos paroles et nos actes soient en ligne, soient en cohérence. Parce que l'infidélité, justement, c'est de dire une chose et de faire le contraire. De faire des grandes déclarations, et la vie montre qu'il n'y a rien qui tient. Tout est fragile, tout est aléatoire. Et Dieu dit, je voudrais que tu sois fidèle parce que ce que tu dis et ce que tu fais, c'est une et la même chose. Ça, c'est mon premier point. C'est ça qui nous donne de la crédibilité. Et mes amis, vous qui avez famille, qui avez des enfants, vos enfants vont vous tester. Oui, papa, tu as dit ça. Oui, mais tu fais autre chose. La maison va être votre terrain d'exercice pour prouver si vos paroles et vos actes correspondent vraiment. Parce qu'ici, dans l'église, je peux faire des déclarations extraordinaires, mais à la maison, c'est là que ça se passe. C'est demain matin au boulot que ça se passe. Est-ce que je suis vraiment cette personne fiable dont les paroles et les actes collent ensemble? Que je dise une chose, mais que je fasse aussi ce que je dis. Et c'est justement là que se trouve le test. Parce que ce que Dieu aime, j'aimerais vous dire, le diable déteste. Ce que Dieu voudrait voir en vous, le diable voudrait le briser. Il voudrait justement briser votre témoignage par une infidélité qui est ternie, une fidélité qui ne parle plus, qui est devenue terne, qui n'est plus du tout ce que le terme devrait représenter. Daniel, dans son livre, il nous est dit que Daniel dérangeait par sa vie. C'était un homme comme ça. Mais sa vie dérangeait. Les autres étaient jaloux de lui, il avait du succès, les autres... Et il voulait le coincer, il voulait lui faire un croche-patte. Il voulait qu'il tombe, il voulait dire « Ah, il faut qu'on lui tende un piège pour qu'il se casse le bout du nez, qu'il se casse la figure, et là on va bien rire. » Et Daniel était un homme droit, et il était un juif sorti par déportation, il arrive en Babylonie, qui est devenu le royaume de Perse plus tard, et là, il est là depuis déjà plusieurs décennies, il a vu passer des rois et des empereurs, il a vu passer des grands hommes, il est toujours dans une position haut placée, et là, on teste sa vie. Vous savez, plus vous avez une position élevée dans la société, plus on va regarder si vous êtes fidèle. Plus vous serez testé. La fidélité de quelqu'un qui fait un job de base n'aura pas forcément les mêmes conséquences que celui qui a de grandes responsabilités, qui peut-être gère de grandes fortunes et qui est l'infidélité de l'un et de l'autre, ce n'est pas la même chose. Il y a des conséquences différentes. Et Daniel, on voulait le coincer parce qu'il avait des grandes responsabilités et on voulait voir si en le piégeant, il pourrait le faire tomber. Et la Bible dit ceci, écoutez, chapitre 6, verset 5 du livre de Daniel. Les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume, il était très haut placé. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Vous voudriez avoir ça dans votre CV? Rien à redire. Il est réglo. Et puis il est dit, parce qu'il était fidèle. Vous pouvez entourer ça dans votre Bible. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel, dans ce qu'il disait, il tenait parole. Il était fiable dans ses actes et dans la gestion de ses choses. Et à cause de cela, eh bien, il a quand même atterri dans la fosse aux lions. Sa fidélité lui a été coûteuse. Joseph, la même chose, un homme fidèle, parce qu'il a dit, mais je reste fidèle à mon engagement envers mon patron, c'est Potiphar, et je vais suis fidèle envers Dieu et envers mon patron. Et quand sa femme, la femme de Potiphar, pendant l'absence de son mari, commençait à l'aguicher, commençait à le tenter, le tester, à lui dire, écoute, viens, on est tout seul, viens avec moi, j'ai une super chambre à coucher, je vais te montrer. Et quand il est là, la fidélité de Joseph, il dit, comment je ferai un aussi grand mal contre Dieu et contre mon patron? Et il se laisse envahir par le principe et la vertu de la fidélité. Mes amis, si vous voulez être fidèle dans les moments chauds et dangereux de la vie, vous devez décider auparavant si vous allez être fidèle. Si vous décidez au moment où ça chauffe de tous les côtés, si vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, au secours? Vous devez décider avant ce que vous voulez, avant. Et Joseph avait décidé avant qu'il allait être fidèle et qu'il allait vraiment être dans la main de Dieu. Il n'allait pas trahir ni son Seigneur ni son patron. Eh bien, ça lui a coûté 2 ans de prison. Injustement mis en prison. Il n'avait rien fait, il était fidèle. Et sa fidélité l'a amené en prison. Plus tard, vous connaissez l'histoire, il a été élevé. Mais quand même, la fidélité peut avoir un prix. Un homme fidèle, qui le trouvera? C'est que peut-être il se fait rare. Encore un exemple. L'apôtre Paul va relever la fidélité de quelques-uns de ses collaborateurs, de ses compagnons de ministère, et il va citer quelques noms que l'on ne trouve pas si souvent dans la Bible. Je passe au Nouveau Testament, il dit par exemple Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Tychique, c'est un nom, j'ai regardé rapidement dans ma concordance, il figure 5 fois, mais chaque fois il est envoyé pour donner des informations. Tychique vous informera, Tychique vous parlera de ce qui se passe. C'était un informateur fidèle, c'était quelqu'un qui transmettait des informations avec exactitude. Quand on vous confie un petit secret, quand on vous confie une info, comment est-ce que vous la répétez? Avec exactitude, vous augmentez un peu, vous diminuez un peu parce que ça vous arrange. Combien vous êtes à l'église de réveil? Oh, on est 600. Ou bien si on compte juste, ben, on est peut-être 150. Combien de membres vous avez? Ah ben on en a autant. Et quand il faut payer les cotisations des membres, tout à coup il y a moins de membres. Quelle information est-ce qu'il nous donne? Tychique était quelqu'un qui apportait des informations exactes. Paul pouvait se compter sur lui. Paul était en prison, mais il avait son Tychique qui partait. Il était fiable. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes fiable dans vos informations? Ou est-ce que vous arrangez les informations? Ou est-ce que vous arrangez ça seul pour augmenter vos avantages? Profiter d'une situation. Il est dit d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il était connu pour être un intercesseur fidèle. On vous dit, frère, tu veux prier pour moi? Oui, oui, je vais prier pour toi. Puis qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà oublié au lendemain. Souvent, on nous demande de prier, prier, mais je réalise pour moi-même, j'ai souvent oublié de prier, parce qu'on me demande de partout de prier. Mais des fois, on oublie quand même. Mais Épaphras était un intercesseur fidèle. L'apôtre Paul le dit, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre. Et quand vous lisez ces textes, il intercédait avec fidélité. Fidélité. Frères et sœurs, ça va dans les détails, ça. Encore une autre situation, Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Onésime était un esclave qui s'était enfui de chez Philémon, et il arrive à Rome, et il est mis en prison. Il est mis en prison, et puis là, il se convertit, et l'apôtre Paul dit, voilà, il est devenu un fidèle. Il a changé de vie, il est fidèle. Il était connu pour son infidélité, pour son esprit révolté, il cassé la baraque, il s'est enfui, il a peut-être pris dans la caisse, parce que l'apôtre Paul va dire dans Philémon, s'il t'a pris de l'argent, c'est moi qui rembourse. Donc il avait piqué dans la caisse, probablement. Donc il a été maintenant, il est fidèle. Frères et sœurs, peut-être vous étiez avant tout sauf fidèle dans beaucoup de domaines. Dieu vous dit aujourd'hui, sois fidèle. Deviens fidèle à partir d'aujourd'hui. Amen. Deviens fidèle. Deviens fidèle. Suis-je connu pour ma fidélité? Une petite anecdote. À la fin de mes études, ça remonte à longtemps, 1978, j'avais quelques mois avant mon service militaire. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant ces mois? Je vais chercher un petit boulot. Donc, j'ai été pendant quelques mois gardien de parking. C'est un petit job de congé, on va dire, un petit job de vacances, un petit job en intérim. Et puis, à l'époque, donc, c'était en plein centre de ville de Liège, en Belgique, et j'étais là. C'était justement les mois d'automne, il faisait assez froid et tout ça, je sortais. Et puis à l'époque, la voiture arrivait, c'était un terrain vague, les voitures arrivaient et on demandait l'heure d'arrivée. Puis quand les gens sortaient, selon l'heure qu'ils sortaient, on encaissait en cash quelques pièces de monnaie. Et puis, donc je fais tout ça pendant ces 2 mois. Et à la fin du premier mois, j'amène la recette chez le patron. Il regarde, il me dit, oh, tant que ça. Et puis... il va dans son bureau, puis il revient, il me tend un billet. Ça, c'est pour vous. C'est en plus de votre petit salaire. On n'a jamais eu autant. On n'a jamais eu autant. Comment ça se fait? Je dis, j'en sais rien. Moi, j'ai encaissé, j'ai tout fait. Et quand je suis parti, au bout de mes 3 mois, je dis, écoutez, j'ai un ami chrétien qui voudrait être aussi gardien de parking. Il cherche du travail. Oui, oui, amenez-le tout de suite, je l'engage. Parce qu'apparemment, les gens avant nous, avant moi, il n'y avait pas de vérification possible, donc ils prenaient, ils ne mettaient pas de ticket, etc., ils le laissaient aller. Ils avaient beaucoup d'argent personnel, mais ils avaient peu de recettes pour le patron. Soyons fidèles dans les détails, même dans notre comptabilité, soyons fidèles. Ce n'est pas pour me faire valoir pour quelque chose, c'est simplement fait ce qui est juste. Quand tu auras fait tout ce qui est juste, dites, vous êtes des serviteurs inutiles. À Dieu la gloire, pas à nous. Mais notre témoignage compte. Votre fidélité va faire en sorte que vous serez repéré, vous serez recherché dans vos entreprises parce que vous êtes fidèle. On cherche des hommes et des femmes fidèles. Un homme fidèle, le trouvera-t-on, disait le proverbe. Et Dieu vous pose la question. Deuxième point. Fidèle donc dans nos actes et nos paroles qui doivent être en phase. Est-ce que nous sommes fidèles dans le lieu où nous sommes plantés? Ou est-ce que nous bougeons lorsque Dieu nous a dit de rester? Là où tu es planté, il faut que tu fleurisses, il faut que tu fasses tes racines. Il ne faut pas bouger tant que Dieu ne t'a pas montré qu'il faut bouger. Sois fidèle. Les apôtres vont dire dans Hébreux, certains ont pris l'habitude d'abandonner leur assemblée parce que ceci et cela ne leur plaît pas. Ceci est trop long, ceci ne correspond pas à leurs idées. Donc ils vont voir ailleurs. L'apôtre dit, sois fidèle là où tu es planté, parce que c'est un lieu, un territoire d'exercice, d'apprentissage. C'est là que je veux te former, t'apprendre des choses. Mes amis, nous ne serons probablement jamais dans des conditions parfaites pour nous installer. Si vous attendez que les conditions soient toujours parfaites, vous allez faire peu de choses. Très souvent, les conditions ne sont pas du tout idéales pour faire quelque chose. Mais là où Dieu te plante, pour le temps qu'il voudra, sois fidèle. Ne t'échappe pas, ne fais pas l'école buissonnière. Ne t'échappe pas. Ne va pas voir ailleurs parce que ça semble plus facile ailleurs, ça semble plus avantageux ailleurs. Reste là jusqu'à ce que la nuée de Dieu se lève et qu'elle dit, maintenant vous pouvez partir. Or, je pourrais vous raconter bien des situations dans la vie où j'avais envie de quitter quelque part, mais où je suis resté. Parce que la nuée ne s'était pas levée. Et en priant, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne sentais pas qu'il fallait partir. Il fallait tenir et persévérer. Plusieurs situations, je ne vais pas en parler ce matin, c'est trop long. Mais parce que je suis resté, j'ai pu voir après coup que c'était à mon avantage. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai grandi au travers de cette école où j'ai été planté. Là où tu es planté, tu es dans une école. Et Dieu te veut que tu restes dans cette école jusqu'à ce que lui dise, maintenant tu peux aller ailleurs. Combien de situations, combien de départs, combien de choses nous entreprenons sans avoir demandé l'avis du Seigneur? Et combien de gens crient et disent, ça ne marche pas, ça... on se plaint parce qu'on n'a pas demandé l'avis du Seigneur. Trop de chrétiens n'ont pas demandé l'avis du Seigneur. Ils ont fait leur propre choix et on veut que Dieu bénisse nos choix. Mais non, Dieu ne bénit pas vos choix. Dieu bénit ses choix à lui. C'est là que tu seras béni. C'est là que tu seras béni. Quand tu restes fidèle au lieu où tu as été planté. Il nous est dit dans Luc chapitre 4, verset 42, que Jésus était environné de gens qui le sollicitaient quasi jour et nuit. Il sortit à l'aide dans un lieu désert. Les gens, la foule se mit à le rechercher, arrive jusqu'à lui. Il voulait même le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'aille annoncer dans d'autres villes la bonne nouvelle. Jésus était mis sous pression, mais il faut rester avec nous, reste. Jésus dit non, j'ai prié mon Père, c'est lui qui m'a dit, je dois aller ailleurs, et je vous quitte. Donc c'est être fidèle au lieu où nous sommes placés jusqu'à ce que Dieu nous dise, l'étape suivante c'est là. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Le troisième et dernier aspect, c'est la fidélité dans nos alliances à nous. La Bible parle beaucoup de l'amitié dans les Proverbes, et elle nous parle aussi de l'amitié fidèle. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis, vraiment des vrais amis. Souvent, ils sont peu nombreux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Autant vous aimeriez que votre ami soit fidèle envers vous, offrez-lui votre fidélité. N'oublie pas ton ami. La Bible dit même, n'oublie pas l'ami de ton père. Ça veut dire que les anciennes amitiés qui étaient dans les familles, ben, soigne-les, prends-en soin, prends des nouvelles. On aime bien quand on prend de nos nouvelles. Et qu'on ne nous téléphone pas juste pour nous donner des informations ou demander un service, mais qu'on prenne juste des nouvelles. L'amitié, c'est ça, être là pour l'autre. Simplement, est-ce que Dieu peut trouver cette fidélité chez nous? Fidélité dans nos alliances. Le mariage est l'alliance, une alliance de vie entre un homme et une femme. Un engagement total qui représente prophétiquement l'alliance de Jésus avec son Église qui va atterrir et aboutir aux noces de l'agneau, alléluia. Et cette alliance commence par une promesse de fidélité. Je pense à un mariage, hier on a eu un mariage, c'était pas le cas hier, c'était super, les promesses. Mais je me souviens d'un mariage où ils étaient tellement dans l'émotion qu'au moment des promesses, le mari ne prend pas son papier où la promesse était inscrite, il dit « Oh chérie, quand je t'ai vu la première fois, j'étais subjugué, je suis tombé amoureux. Et depuis, tu brilles de tous tes feux, et tu cuisines bien, et tu es formidable. Et les gens applaudissaient à tout rompre, parce qu'il faisait un compliment incroyable. Puis il avait fini, je me suis approché. Fais ta promesse. Il n'avait rien promis du tout. Il avait fait des compliments. Il n'avait rien promis. Et alors, ah oui, il sort son papier. Je te promets fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous pouvez faire des magnifiques déclarations, mais tenez votre promesse et faites, vous avez fait une promesse à votre mariage. Et moi je dis, vous pouvez faire un chapitre entier, mais vous devez dire dans ce chapitre, je te promets de t'être fidèle. Ça doit figurer d'une manière ou d'une autre. Malachie chapitre 2, Dieu est témoin du mariage que tu as conclu. Dieu est témoin de la fidélité et il va te donner les forces de rester fidèle. Mais aujourd'hui il y a tant et tant d'infidélités. J'ai dit aussi à mes frères africains, quand j'étais en Afrique, je l'ai dit sans gêne. Je dis, mes frères, vous attendez bien que votre épouse soit fidèle, n'est-ce pas? Vous voulez avoir une femme fidèle? Oui, oui, oui. Je leur ai dit, mais pourquoi vous permettez des infidélités? Je dis, je n'accuse personne, mais je sais par expérience qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Beaucoup, j'en ai entendu beaucoup. Beaucoup trop. Des infidélités. Dieu désire que nous soyons des témoins fidèles dans nos mariages, frères et sœurs. Que nous soyons des exemples et non pas des objets de scandale. Parce que lorsqu'on trouvera chez un chrétien de l'infidélité dans son alliance, eh bien le diable et les cancans et les gens ne se priveront pas de vous mettre en pâture devant les médias même. Si un pasteur commet une infidélité grave, mes amis, demain matin dans le journal, ça va figurer, croyez-moi. Ça va figurer. Priez pour vos responsables, merci de le faire. Mais en même temps, nous devons rester fidèles. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'homme, en tant que femme. Et plus vous avez une position dans la société, on attend de vous la fidélité. On demande la fidélité. Même il y a des prestations de serment pour la police, pour les avocats, etc. Les prestations de serment demandent la fidélité. La société, on vous le demande. Mais Dieu vous le demande au-dessus de tout ça. Soyez fidèles. Il ne faut pas que l'infidélité soit dans l'Église. Ce n'est pas normal. Je termine là mon message. Sois fidèle, je termine, jusqu'à la mort. Il est dit, Apocalypse 2, 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. La couronne de vie pour ceux qui sont fidèles jusqu'à leur dernier souffle. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Là où Satan a sa demeure. nous sommes fidèles jusqu'à la mort, en prenant comme exemple Étienne, le premier martyr, en prenant comme exemple Jacques, le deuxième martyr, en prenant comme exemple tous les martyrs jusqu'à aujourd'hui qui souffrent pour le nom de Jésus, qui sont maltraités, mais qui restent fidèles. Alléluia, parce que Dieu leur promet de rester fidèles. Dieu leur dit, je te donnerai la force pour rester fidèle jusqu'au bout. Et la grâce, au moment où c'est dur, tu vas la recevoir juste à ce moment-là. Alléluia, Seigneur.